Pour à chacune et à chacun, ceux que je n'ai pas vus avant. Ça fait déjà plusieurs fois, effectivement, que vous avez le privilège de m'inviter. C'est un plaisir pour moi, en tout cas. Et je regardais un petit peu les différents messages que j'avais pu partager avec vous au fil de ces derniers mois. Et j'avais commencé, en tout cas, par quelque chose qui me tenait à cœur. C'était peut-être, vous l'avez oublié, mais en tout cas, je vous le rappelle, c'était ce qu'il faut croire ou naître de nouveau. Est-ce qu'être chrétien, c'est être croyant? Ou est-ce qu'il a quelque chose de plus? Et c'est vrai qu'on vient de faire descendre les enfants, les jeunes, et qu'on a une moyenne d'âge qui est relativement jeune entre nous. Ma femme me disait, mais en fin de compte, ce message de ce matin, tu pourrais peut-être l'apporter à des jeunes. Ce serait peut-être bien qu'ils l'entendent assez tôt. Ce qui n'est pas faux. Et en fin de compte, la préoccupation qui est la mienne, c'est de se dire, en fin de compte, quelle est la responsabilité que nous avons face à ce que nous avons reçu, de transmettre autour de nous des choses qui sont essentielles et qui sont importantes. J'ai appelé ce message ce matin la vaine foi, tant il est vrai qu'effectivement, nous travaillons. On l'a chanté tout à l'heure, c'était une des paroles d'un chant qu'on a fait, travailler pour Dieu, travailler avec Jésus. Il y a une responsabilité. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Regardez autour de vous, regardez parfois en vous, en nous, quand je dis vous, je ne vous accuse pas, je nous regarde nous aussi, combien dans certaines situations, le fait que nous soyons chrétiens change ou pas les circonstances ou le regard que nous portons sur les circonstances ou notre façon de réagir. Une des paroles de l'Ancien Testament nous dit « Jusque à quand marcherez-vous à cloche-pied ?» Comment vivons-nous notre foi et quel est l'impact de notre foi dans notre vie? Quand Paul pense à ça, c'est qu'il y a bien des préoccupations. Nous vous exhortons à ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Et il s'adresse à des chrétiens qui pourraient avoir effectivement des préoccupations par rapport à ça. C'est pour annoncer l'évangile, dit Paul, qu'il a été envoyé, pas pour baptiser, pas pour faire ceci, pour faire cela, mais pour annoncer l'évangile, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Nous venons de prendre la Sainte Cène maintenant. Imaginez le scénario que cela peut représenter dans certaines circonstances, lorsque par nos comportements, ou nos réactions, ou nos choix, le fait que Christ soit mort pour nous ne change rien. Qu'on soit comme tout le monde, que plutôt que d'aller à lui, on aille ailleurs, et que la croix de Christ soit rendue vaine. C'est pas grave, je peux pas aborder ça sans avoir ce sentiment, cette émotion qui est juste énorme. Et cette exhortation nous est faite par Paul et il l'adresse à des chrétiens. Annoncer l'évangile afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est des paroles qui sont effrayantes. Notre responsabilité est d'annoncer l'évangile. Pas d'annoncer des religions ou une religion qui s'inspire de l'évangile. Mais d'annoncer l'évangile. À cette époque-là, les écrits de Paul se promenaient de temps en temps. Ils n'avaient pas été accumulés comme nous les avons aujourd'hui dans la Bible. Les gens n'étaient pas au bénéfice de tout l'enseignement que nous avons par les siècles qui ont passé. L'évangile, c'était quoi? Changez de vie. Faites-vous baptiser. Recevez le Saint-Esprit et vous pourrez vivre cette vie magnifique que le Christ nous offre, avec toutes les circonstances dans lesquelles on peut être et qu'on peut traverser. Mais afin que la croix ne soit pas rendue vaine. C'est une prédication, c'est une exhortation de l'apôtre Paul qui est énorme, qui nous renvoie à des responsabilités qui sont importantes. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Là, c'est pas Paul. Encore qu'on aurait pu penser que c'était lui qui avait écrit l'Épître aux Hébreux, mais on ne sait pas qui c'est. Mais toujours est-il que cette exhortation est envoyée au tout début de notre histoire chrétienne. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, parce que c'est possible. Parce que nous pouvons, par notre vie, nous priver de la grâce de Dieu. Ces choses existent. Vous côtoyez des gens, je côtoie des gens qui se réclament de la foi de Christ, qui se disent chrétiens, je ne veux pas mettre en cause le fait qu'ils se... ou pas. Mais quand je vois les difficultés ou les réactions qu'ils ont dans certaines circonstances de leur vie, je me dis, mais à quoi est-ce que ça sert que Christ soit mort? On va chercher à droite ou à gauche, ailleurs, la paix, les ressources. Je ne dis pas qu'il faut bannir, c'est toutes les choses que le monde nous met à notre disposition, mais dans des choses qui sont essentielles. Combien d'inquiétudes et d'autres choses comme ça viennent gagner nos cœurs. Et enlever cette paix que le Christ a payée cash pour que nous l'ayons. Que nous traversions les circonstances qui soient difficiles, on le verra. Mais que dans ces circonstances-là, on n'ait plus la paix. Ils nous soient enlevés. L'essentiel, c'est juste important, c'est juste impossible. Et puis, alors moi je suis mort pour toi, ça sert à quoi? Mais tu comprends. Vous imaginez la tête du Christ. Alors face à ça, on peut se poser un tas de questions, et dans cette exhortation à se dire, mais en fin de compte, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont les choses qui peuvent nous arriver? Comment se dire, mais en fin de compte, comment je pourrais me priver de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un en face de moi, un frère, une sœur, ou peut-être quelqu'un qui croit être et puis qui n'est pas, peut arriver à se priver de la grâce de Dieu tout en se réclamant du Christ. Alors, sans être exhaustif, mais je vous propose quelques pistes de réflexion qui sont, à mon avis, des occasions de se priver de la grâce de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Combien de personnes autour de nous ignorent ces choses-là? Quand on dit d'annoncer l'évangile, il est vraiment question d'annoncer l'évangile à des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Dernièrement, j'ai vécu une expérience comme ça, enfin à deux reprises. Ma tante a 92 ans. Elle vit avec une amie, relation homosexuelle, j'ai pas envie de délibérer là-dessus, mais de très très longue date. Et on était chez elle il y a quelques semaines. Et puis avec ma femme, on s'était dit, mais en fin de compte, enfin en priant que ces occasions de rencontre puissent un jour peut-être faire quelque chose. Elle a 92 ans, j'en ai 68, ça fait bientôt 50 ans que je suis chrétien. Jamais nous n'avions abordé ces sujets-là. Mes origines catholiques et les pratiques de différentes personnes dans ma famille étaient assez conservatrices, piété mariale et autres, et on n'abordait pas ces sujets-là en famille. Et là, étrangement, cet été, ma sœur s'est fait baptiser, issue de l'Église catholique aussi, 72 ans. Et puis je lance l'information en disant peut-être que ça va rebondir, puis qu'il va y avoir quelque chose, je vais à la pêche, alors je parle du baptême de ma sœur. Rien. Et avant de partir, c'est un peu souvent comme ça, à la fin du repas, avant qu'on se quitte, on a abordé, je ne sais plus de quelle manière, les choses de l'Évangile. C'était impressionnant de se rendre compte à quel point ces personnes entendaient l'Évangile pour la première fois. Elles avaient rejeté toutes les valeurs chrétiennes, religieuses, catholiques, sans faire de polémique, de toute leur vie, parce que leur enseignement, puis la pratique et autres avaient fait que c'était comme ça. Et d'un seul coup, en parlant avec mon épouse et en leur parlant de l'Évangile, j'avais le sentiment profond qu'elles entendaient l'Évangile pour la première fois. Entendre parler de ce que le Christ a accompli, de ce que Dieu peut être pour chacun d'entre nous, de la présence du Saint-Esprit qui nous est donnée pour pouvoir vivre cette vie dont on parle. Elles découvraient ça. On a pu en reparler une autre fois lorsque je les ai invitées à venir chez nous. C'était étonnant de se rendre compte combien de personnes autour de nous ne connaissent pas l'Évangile. On a entendu parler de l'Évangile, oui, mais ne connaissent pas. Dans nos familles, selon le catéchisme qu'on a donné, que nos enfants ont reçu, moi j'en ai 4, il y en a 2 en tout cas qui se souviennent très très vaguement de ce qu'elles ont entendu. Donc, manque de connaissances, nous avons vraiment une responsabilité à informer nos enfants, à informer les gens qui sont autour de nous, à avoir une audace de la parole, de pouvoir parler de l'Évangile. et pas de bondieuserie ni de choses qui sont sympathiques et qui sont non vraiment l'œuvre de Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous. L'apôtre Paul vient vraiment interpeller les gens. Est-ce que vous avez oublié que c'est en Christ et dans sa mort que vous avez été baptisés? Ça veut dire quelque chose, mourir en Christ. Ça veut dire quelque chose lorsqu'on se réclame de notre passé. Je comprends, avec toute l'éducation que j'ai reçue, les expériences de vie que j'ai vécues, les choses douloureuses que j'ai vécues, c'est difficile pour moi de vivre aujourd'hui la vie chrétienne. Puis nous sommes là en train de dire, oui, c'est vrai que ça doit être difficile pour toi. Et va voir un psy. On va voir quelqu'un qui va te parler de ton passé, puis qui va vouloir soigner ton passé. Suis-je mort en Christ? Ignorez-vous que c'est en Christ que vous avez été baptisés, que c'est en sa mort que vous avez été baptisés, et que ce qui est mort en vous n'a aucune légitimité aujourd'hui pour venir ternir votre vie, pour venir rendre parfois la croix du Christ vaine. Si vraiment je suis né de nouveau, quel rapport j'ai avec mon passé qui est mort en Christ? Ignorez-vous ça, dit Paul, mais il le dit à des chrétiens. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Combien de fois sommes-nous gênés de parler de notre foi, de témoigner de ce que le Christ a accompli? Aujourd'hui, quelqu'un est musulman, c'est à la mode. Quelqu'un est bouddhiste ou fait du yoga, c'est original. C'est joli, c'est sympa. Un autre va avoir une autre culture ou une autre philosophie de vie, puis on va être là devant. Ah ben oui, tiens, ça c'est sympa, puis apparemment, ça, ah ben c'est original. Ben oui, j'ai aussi quelqu'un que je connais qui fait la même chose. Ah oui, c'est... Puis vous, vous arrivez là au milieu, vous dites, ben moi je suis chrétien. Pouf. Et puis on n'ose plus parler, parce que c'est vrai que la religion chrétienne a tellement trahi le message de l'Évangile, que parfois, ben, on est un peu culpabilisé, qu'on n'ose plus, on n'ose pas. Moi, j'ai déjà entendu ces trucs-là. Mais ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Apporter l'Évangile et avoir parfois une parole d'autorité, une parole de puissance qui vient permettre à la personne à laquelle vous parlez de vérifier que ce Dieu dont vous parlez est effectivement un Dieu vivant qui agit maintenant. C'est impressionnant. Moi, j'ai le privilège d'être visiteur de prison, je le disais à Pierre avant. Je visite un gars en prison, ça fait 23 ans qu'il y est. Il a 53 ans, il ne sait pas quand il va sortir. Et il a donné sa vie à Christ. Quand je vais le voir, il me raconte des trucs. Moi, ça me fait un bien fou. Il est du fond de sa cellule, il n'attend pas que Philippe vienne le voir pour lui parler de Jésus. Il a une foi qui est authentique, il a une foi que Dieu manifeste dans sa vie et il en voit les fruits. Jamais il y a quelques mois, il aurait imaginé prier, oui, prier peut-être, mais avoir un exaucement. Que le Dieu auquel il s'adresse lui réponde. Et il découvre ces choses-là. C'est juste fou. Ces choses-là sont vraiment de notre responsabilité. On a à apporter et à être fier de la parole de l'Évangile. Pas être prétentieux. Mais quoique, quand on nous dit qu'on est prétentieux parce qu'on dit Jésus est le seul chemin, c'est prétentieux par rapport à tous ces gens qui disent « Oui, moi, toi, tu crois ceci, moi, je crois cela, mais en fait, on le sait bien, on croit le même Dieu. » Ben, pas forcément. Prétendre que nous avons la vérité, humainement parlant, ça ne le fait pas. Mais au fond de notre cœur, la certitude, elle doit nous habiter et ne pas avoir honte de quoi que ce soit lorsqu'on parle de l'Évangile. En gardant la foi et une bonne conscience, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. L'accusateur. On voit tout de suite de qui on cause. En gardant la foi dans les paroles qui nous ont été données, en gardant la foi dans le sacrifice que le Christ a accompli, la certitude qu'effectivement ce qu'il a accompli est complètement parfait, que si je me réclame de cela que je suis mort en Christ, il y a des choses qui n'ont plus aucune autorité sur moi. Il y a des choses que l'accusateur peut me dire, mais que je n'ai pas à entendre. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue.
Laquelle ? Mais franchement, Philippe, t'as vu ce que t'as fait ? T'as vu qui tu es ? Et tu oses parler ce matin, dimanche ? Prétentieux ? Ou quoi que ce soit, enfin, je pourrais m'en rajouter un wagon. Mais je suis parfait devant vous.
Nous prions. Comment pourrons-nous prétendre nous adresser à Dieu, être dans sa présence, sans être parfait? Comment ça serait possible? Vous vous regardez comme parfait? Vous êtes parfait. Mais si cette conscience ne vous habite pas, si ce n'est pas cette parole-là que vous êtes capable de répondre à une petite accusation qui vient dans votre tête, à ce moment-là, d'un seul coup, vous retombez dans la culpabilité et vous n'êtes plus au bénéfice du sang de Jésus qui vous purifie de tout péché. Ça ne veut pas dire qu'on est exempt d'erreurs ou de quoi que ce soit, mais le regard que nous portons sur notre vie peut ternir véritablement notre relation avec le Christ. Et on vient laminer, pauvre de moi, Seigneur. Puis, attends, je ne suis pas mort pour toi. De quoi tu me parles là? Moi, quand je te vois au travers du sang de Jésus. Donc, comment est-ce qu'on se regarde avec nos yeux? Et là, on est mal. Si on se regarde avec les yeux que Dieu peut porter sur nous, il n'est pas en train de dire ou n'est pas en train de penser qu'on n'a rien fait, parce que notre mémoire à nous, elle est ainsi faite qu'on ne peut pas oublier. Mais qu'est-ce qu'on professe sur nous? Quelle est la parole que nous confessons sur nous? Je suis malheureux, pauvre, misérable et nu. Moi, c'est des paroles qui existent, hein. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit de nous. Et quand on pense comme ça, on fait naufrage par rapport à la foi, parce que le sentiment que le Christ a accompli quelque chose de parfait n'existe plus. Je ne suis pas aussi bien qu'eux. Et en résonance, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Mais la grâce de Dieu opère quelque chose d'extraordinaire dans le cœur. C'est qu'il nous relève la tête. Il dit pas t'es parfait, t'es beau, t'as rien fait. Non, il dit en moi, par le sang de Jésus, je te vois pur, saint, irrépréhensible. Ça, c'est des paroles de Paul. Assis à la droite de Père, de Dieu, en Jésus-Christ, héritier. C'est des paroles qui viennent relever notre tête, gonfler en nous la certitude que le Christ a accompli quelque chose et que ce qu'il a accompli a du sens pour moi maintenant dans la circonstance que je traverse, et pas de me laisser par terre, de me relever, que la croix devient opérante dans ma vie à ce moment-là. On énumère encore quelques petits exemples. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Vous connaissez. Qui ne les met pas en pratique. Toutes les exhortations qui nous sont faites, tout ce que le Christ nous a dit de ce qu'il avait accompli, tout ce que nous sommes appelés à croire, à recevoir et à vivre, si ça reste lettre, dit-on, lettre morte. On connaît cette expression-là. Mettons en mouvement la foi que nous avons reçue. Agissons. La chose qui nous est demandée, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les en mon nom, etc. Vous connaissez cela. Il ne nous a pas été demandé de dire, allez et priez pour moi pour que je fasse ces choses-là. J'ai fait quelque chose une fois et je l'ai pleinement accompli. Maintenant, à vous d'agir. Pas à vous de prier que je fasse quelque chose, oui, dans certaines situations, et je ne veux pas enlever toutes ces choses qui nous invitent, Seigneur, accomplis ou fais quelque chose. Mais il y a une mission qui nous est confiée, et cette mission, elle est de dire. Elle est de faire certaines choses. Elle est d'agir en son nom.
par l'esprit que nous avons reçu, d'agir en son nom. Et si on ne le fait pas, qu'on reste dans son coin, puis qu'on prie, Seigneur, ça serait bien que tu puisses toucher le cœur de cet ami. Oui, mais moi, je suis un peu timide, j'ose pas en parler, et puis je vais attendre que quelqu'un de spécialiste vienne dans une rencontre particulière, où je dirais, viens écouter celui-là, tu verras, c'est génial. J'ai le privilège de baptiser mon fils l'été passé, et il progresse dans sa vie. Il progresse, il grandit. C'est pas un champignon qui est venu mature tout de suite. Il est plutôt du genre chêne, prend son temps. Mais inexorablement, la vie produit en lui un effet visible. La semaine passée, il me dit, bah tiens, demain soir, je vais à une rencontre de libération chez X. Tu dois connaître. Je lui dis, oui, mais c'est pas ma tasse de thé. Il est revenu, je lui fais, c'était bien ta soirée, enfin, je l'ai vu hier, hein. Puis il me dit, non, il ne s'est rien passé, j'étais content. Pas que Dieu n'intervienne pas dans sa vie, mais que pour lui, ça ne soit pas au bénéfice d'un médiateur, vous savez, c'est champion. On annonce le Christ, c'est sûr, je ne mets pas ça en cause. Mais d'être là, ah ben j'ai un problème, je vais aller voir X, Y, ah ben il vient dans 2 mois, bon ben je vais attendre 2 mois pour aller le rencontrer parce qu'avec lui ça va quelque chose changer dans ma vie. C'est ça que je dénonce. Ce que Dieu veut accomplir en nous, par nous, nous appartient maintenant. De pouvoir annoncer l'évangile maintenant, dans sa plénitude maintenant. Que si quelqu'un d'un seul coup ne se sent pas libre maintenant, c'est qu'il y a quelque chose dans la connaissance de l'œuvre de Christ qui n'est pas juste. C'est une fausse croyance qu'il est en train de confesser sur lui. Parce que le Christ l'a libéré. Alors est-ce que le rencontrant, je veux dire, oui c'est vrai qu'en fin de compte, dans ce que tu as vécu, on pourrait peut-être se rendre compte, mais on va prier pour que tu sois libéré, parce que là c'est vrai que tu ne l'étais pas avant. Comme si l'œuvre de Christ n'avait pas été opérante en lui avant. Donc nous confessons parfois des choses qui ne sont pas justes. Et la connaissance que nous avons de ces choses-là doit se développer sur l'œuvre que le Christ a accomplie. Et ça, ça nous appartient. Cet esprit de puissance, ce n'est pas spectacle. C'est une parole d'autorité qui peut être confiée et dire « Non, c'est ça que le Christ a accompli. » Tu le ressens ou pas ? Tu l'ignores ou pas ? Mais mon importance et ma responsabilité, c'est de t'en informer juste. Donc de mettre en pratique ce que j'ai reçu comme vie pour que l'autre ne soit pas devant une foi qui est limitée et qui n'arrive pas à vivre cette espérance en Christ. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Vaine. Ça existe ? La foi sans les œuvres. Alors on ne parle pas d'activisme, on ne parle pas de la foi, le salut par les œuvres. Mais si la foi que j'ai ne s'exprime pas, c'est juste que je suis mort. Quand on est vivant, on ne peut pas ne pas vivre. On ne peut pas ne pas bouger. On ne peut pas ne pas faire. C'est juste impossible. Donc si quelque chose dans ma vie ne se manifeste pas, c'est toujours de mort parce que ça n'existe pas ou que c'est mort. Et j'ai à prendre conscience de ça, pas dans un souci de « Oh, pauvre de moi !» Non, mais de réaliser que la foi doit se manifester et que c'est de notre ressort et que si ça ne se manifeste pas, c'est que cette foi est vaine et qu'il y a quelque chose qui bug dans ma vie et que j'ai vraiment à réfléchir sur moi, mais comment aussi interpeller l'autre dans ce qu'il est en train de vivre. On a une responsabilité, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Il y a vraiment une invitation qui nous est faite par la présidence, par le moment de ceci, par la prédication, par tout ce que vous pouvez vivre ensemble. Il y a une vraie responsabilité que nous avons à dire, attends, là dans le dedans, réveille ça ou agis en fonction de ça, le Christ a accompli ça. Voilà quelle est l'œuvre de Christ, nous avons à nous exhorter les uns les autres. Dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions, je m'excuse pour le français, hein, c'est la version, travaillé en vain. Thessaloniciens, c'est de nouveau l'apôtre Paul qui vient, que le tentateur ne vous eût tenté, que tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai enseigné, tout le travail que... On ait fait ça, que ça ne serve à rien. C'est une vraie préoccupation pour l'apôtre Paul, ce que j'ai travaillé en vain. Alors l'attitude du créateur, du tentateur, on le connaît. On dit de Dieu qu'il ne change pas, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai, lui aussi. Lui aussi n'a pas changé. L'espace-temps dans les lieux autres n'existe pas. Nous, on a un début, on a une fin, on a le matin, on a le soir. Dans les cieux, là-haut, ça ne se passe pas comme ça. L'espace-temps n'existe pas du tout de la même manière. Satan est exactement le même. Et sa stratégie n'a absolument pas changé. Dieu a-t-il réellement dit que il est en train de semer quelque chose qui, dans notre foi, dans notre vie chrétienne, parfois peut avoir la même dynamique. Mais est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que ça vraiment c'est ce qui est arrivé? Mais vous vous dites, quand nous, maintenant je suis en train de parler, vous pourriez, et vous pouvez, dans votre conscience et dans votre intelligence, dire, oui, attends, mais, ce petit mais qui tue, et face aux paroles de Jésus, quand il vient enseigner, vous avez entendu ceci, vous avez entendu cela, mais vous vous dites, c'est-à-dire vous traduisez, vous interprétez, et vous reformulez des choses d'une manière telle que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça, c'est aussi quelque chose qui existe maintenant. Tu comprends, moi je suis à la chapelle de l'Espoir depuis 50 ans. On m'a toujours dit que c'était comme ça. Enfin, c'est pareil, je rigole. Moi je viens de l'Église catholique, on m'a enseigné des choses, c'est pas comme ça. Parce que les morts, les saints, les ceci, les cela, le pape, le trône, c'est pas comme ça, Philippe. Et nous pouvons répondre en fonction de la culture qui est la nôtre, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit sociale. Ah ben non, nous on ne nous a pas appris les choses comme ça, d'accord. Connaissance, de nouveau, par la parole. Connaître les choses que le Christ a accomplies. Vous annulez ainsi la parole de Dieu parce que c'est possible de la rendre totalement inefficace. Au profit de nos traditions, on préfère croire à ce que tout le monde dit. Parce que quand tout le monde dit quelque chose, ça doit probablement être vrai. Puis si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, ben il faudra l'assumer, parce que ça, ce n'est pas toujours tout simple. Donc c'est possible. Dieu a-t-il réellement dit que celui qui a reçu la semence, vous connaissez cette parabole, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Combien les circonstances de vie que nous pouvons traverser vont être difficiles ou parfois nous interpeller. Et qu'on regarde autour de nous, bah tiens, c'est comment si la vie de plénitude que le Christ nous propose, c'est ça. Alors qu'on voit l'Église persécutée, qu'on voit les souffrances des uns, les souffrances des autres et autres, qu'est-ce qu'il en est de cela? Mais quel regard portons-nous sur nos circonstances? Quel impact allons-nous avoir sur nous? Christ ne nous a pas dit qu'on aurait une vie qui serait toute plate et toute nivelée. Il y a très longtemps, une personne disait de sa vie, tu comprends, moi, c'est le soleil tous les jours. Puis juste à côté de moi, il y a une personne qui lui répond, oui, mais alors quelle sécheresse? Parce que le soleil tous les jours, c'est le Sahara. Il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc la diversité de circonstances qu'on peut traverser ne sont pas là pour remettre en cause, mais le regard que nous portons sur les circonstances que nous traversons, là il est fondamentalement différent. Et si on est en train de s'être écrasé, et je reviens à ce que je vous disais avant, ce que vous dites de ce que vous vivez est fondamental. Si la parole de Dieu est créatrice, sachez bien que la vôtre aussi. Ce que vous dites, ce que vous confessez sur votre vie devient réalité. C'est pas psychologique ça, c'est une vérité. Dites sur vous, je suis pauvre, misérable, ou tu comprends, je suis timide, ou tu comprends, je suis anxieux par nature. Ah, d'accord, ça change la donne. Vous êtes en train de confesser sur vous quelque chose qui est mort en Christ. Bien sûr, c'est là. Et vous dites, oui, c'est là, c'est normal, c'est plus fort que moi. Ou il se dit quelque chose d'autre sur votre vie. Les soucis, les préoccupations ou les envies de droite de gauche annulent et la rendent infructueuse, vaine. Ce sont des choses. Elles sont là, elles sont à notre disposition. Mais qu'il demande avec foi sans douter. Et ça, ça reprend la même souci de séduction. Dieu a-t-il vraiment dit que ? Mais tu es vraiment délivré de ça ? Ou tu as vraiment reçu ça ? Alors attends, alors comment tu vis alors ? On doute. Ce doute-là vient créer en nous d'autres sentiments, d'autres émotions, et après on va se balader de droite, de gauche. Je croyais que c'était ça, puis en fin de compte j'ai vécu autrement, puis maintenant je ne sais plus quoi croire, et puis on m'a dit ceci, puis on m'a dit cela, puis je ne sais plus. Connaissance. Donc il y a vraiment des choses qui sont là où on doit être conséquent dans notre vie. Je crois que le Christ est mort. Jésus dit, mais les démons aussi. Mais eux, ils tremblent parce qu'ils savent véritablement ce que ça veut dire que je sois mort, que j'ai vaincu les puissances et les dominations, que j'ai vécu en spectacle à la croix. Eux, ils savent ça. Si nous, on leur dit ça, ils diront, ok, lui, apparemment, il y croit. Mais si on en doute, tout le pouvoir est à eux. Satan et toute son armée n'a de pouvoir sur vous que celui que vous leur laissez. Parce qu'au nom de Jésus, c'est juste pas possible. Donc ce qu'on confesse, de nouveau, a une importance capitale dans notre vie de tous les jours, sans douter. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Il n'était pas compliqué. Je l'ai dit ici un dimanche matin, je crois. Je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. L'essence même de l'évangile est là. Le repas du Seigneur, c'est le cœur de l'évangile. Jésus serait venu parler, faire des miracles, être élevé à l'ascension, on ne serait pas là. Il n'était venu que pour mourir à la croix pour moi. Tout le reste ne faisait qu'attester qui il était et de quelle manière Dieu était avec lui pour confirmer les paroles qu'il disait. Ça n'avait que ce sens-là. Et parfois, une parole de guérison pour une personne non chrétienne ne vient pas être une chose extraordinaire, mais juste attester que la parole que vous êtes en train de dire est une vraie parole. Et Dieu l'atteste. Les recherches de guérison pour les, enfin juste parenthèse, pour les croyants, les chrétiens, c'est une dimension différente. Notre relation à la souffrance et à la maladie en Christ est complètement différente. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, et à qui vous parlez de l'évangile, la guérison peut avoir cette expérience d'attester, de confirmer que votre parole est juste. Il ne faut pas la craindre, parce qu'elle a du sens pour les non-chrétiens. Pour nous chrétiens, c'est encore une autre chose différente. Mais l'évangile qu'on nous a annoncé, c'est ça. C'est cet évangile-là que vous avez reçu. Parce que je ne veux pas douter que vous ne l'avez pas reçu. Mais Paul, parfois, m'a ainsi ces questions, si, et dans lequel vous avez persévéré, c'est-à-dire ne pas s'arrêter en cours de route, parce que ça, ça peut rendre la foi vaine aussi, ça peut étouffer la parole et ça peut la rendre inefficace. Oui, mais c'est vrai, quand j'étais jeune, j'avais le feu, comme ça, c'était vraiment génial, on avait des groupes de jeunes, ça pétait, c'était vraiment sympa. Oui, puis maintenant, oui, mais tu comprends, j'ai eu pas mal de soucis, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, puis j'ai un petit peu levé le pied, puis abandonné. Persévérez dans ce que vous avez cru, dans ce qui vous a été annoncé, et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez. Il a du culot, je trouve, l'apôtre Paul. Mais il s'adresse à des chrétiens. C'est les Corinthiens, c'est quand même pas la plus petite des communautés. Combien de fois, par exemple, on la voit comme dans la plénitude de l'exercice des dons. Chaque fois qu'il faut parler des dons spirituels, on vient prendre l'église de Corinthe comme exemple. Et à eux, il dit, mais voilà, si vous le retenez. Donc il y a vraiment, dans notre dynamique de vie, face à l'essentiel de l'évangile, une attitude de persévérance, de maintien, de confiance. faut continuer sur cet axe-là. Parce que ça peut d'un seul coup se casser la figure. Quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Autrement, ça c'est la conclusion du verset d'avant, vous auriez cru en vain. C'est une vraie question qui est posée. C'est une vraie question que l'apôtre Paul vient interpeller chez les gens à qui il écrit. Si vous n'avez pas fait tout ça, vous auriez cru en vain. Et mince, si vous croyez en vain, Christ est mort en vain. C'est juste pas possible. Qu'on soit là, ensemble, assis, et en fin de compte, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Demain matin, ou tout à l'heure, comment est-ce que je vais vivre? Les nouvelles circonstances que je rencontre? Ma relation avec X, ma relation avec Y? Qu'est-ce que ça va impacter dans ma vie? Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, pour nous-mêmes, mais pour les gens que nous côtoyons, ceux que vous connaissez, que vous dites, mais en fin de compte, quelle difficulté, mais quelle peine il a à vivre, et j'ai beau l'exhorter, j'ai beau lui dire, mais en fin de compte, viens, on va prier pour toi, on va avec toi, on va faire un effort. Allez demander à un dépressif de faire un effort pour qu'il aille bien, c'est juste pas possible. Allez demander à quelqu'un qui est chrétien, vraiment, de faire un effort. C'est un non-sens. Rappelez-lui ce que le Christ a accompli, ce que l'Esprit veut produire dans sa vie, pas lui à la force des poignets. Et à quelqu'un qui est peut-être croyant, simplement croyant, sincèrement croyant, un bon Nicodème qui vient vers Jésus puis lui fait, mais mon gars, si t'es pas né de nouveau, tu peux pas. Tu vas faire un tas d'efforts, tu vas essayer de faire un tas de trucs parce que tu les as entendus, on te l'a dit. Mais faire quelque chose par ses propres forces, ou laisser l'Esprit agir en nous, donc apparemment c'est nous qui le faisons, mais c'est l'Esprit qui produit en nous ces choses-là. C'est une toute autre dynamique de vie, parce que ça ne dépend pas de vous. C'est l'Esprit que vous avez reçu. Repentez-vous, changez de vie, soyez baptisés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est juste l'Esprit de Dieu. C'est pas peu de le dire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. L'Esprit de Dieu. Ça calme, hein? Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est ma parole de conclusion. Pas pour quelqu'un ou pour quelques personnes qui seraient totalement étrangères à ce que je viens de partager, mais que dans les circonstances qu'on peut vivre, peut-être que les attitudes ou les contre-attitudes que j'ai dans ma vie, ne produisant pas d'effet, ont peut-être leur origine dans un des points qu'on a évoqués ce matin. Que peut-être vous avez dans votre entourage quelqu'un à qui il faut dire aujourd'hui, arrête. On peut proclamer sur toi cette parole-là parce que c'est une vraie parole de délivrance, parce que tu en avais besoin. Mais on peut aussi dire, regarde ce que le Christ a accompli, rappelle-toi en souvenir de moi, dit-on ce matin, en souvenir de ce que le Christ a accompli, confessez sur vous des paroles qui soient génératrices de vie, de puissance, mais pas de puissance spectaculaire, c'est pas à ça que je pense. Même si parfois ça peut l'être. Mais cette puissance de vie qui va à l'encontre de tout ce que vous pouvez entendre dans votre petite conscience et dans votre intelligence, qui vient titiller, remettre en cause ce que le Christ a accompli. N'acceptez en aucun cas une autre pensée, une autre parole que celle de Christ. Satan peut vous parler de votre passé. Parlez-lui de son avenir, ça va le calmer. Professez, confessez, persévérez pour la gloire de Jésus. Amen. Je vous laisse quelques minutes ou secondes pour peut-être vous placer et puis vous positionner.